Vous écoutez
RMC. RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h02, messieurs, Dominique Glusman, Kevin Diaz et Maxime Chalot sont là avant d'aller en Angleterre. Jean-Luc Roy nous appelle au Grand Prix du Canada.
Et oui, juste un mot pour dire que Lando Norris, qui était donc remonté dans les points, vient d'abandonner sur un problème mécanique. Il a été garé sa monoplace dans de, au fond du circuit. Terminé.
Bon, tant pis pour lui. À tout à l'heure. Julien Laurent, c'est là. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut
Julien. Tous.
Dernière
salut
journée Julien. Du championnat anglais avant de rentrer dans le détail. Petit message pour vous rappeler que lundi de la semaine prochaine, le 1er juin, ce sera la dernière étape de la tournée des 20 ans de l'After. Depuis l'automne dernier, tous les mois, nous allons dans un cinéma pâté, dans une ville où l'After n'est jamais allé pour parler foot avec les auditeurs de l'After. Lundi 1er juin, nous serons au cinéma pâté de Valenciennes. Donc si vous êtes dans le coin, que vous voulez venir assister à l'After avec vos amis, en famille, et ben c'est très simple, vous envoyez un mail, c'est totalement gratuit évidemment, vous envoyez un mail à l'adresse suivante, public@rmc.fr, public@rmc.fr, vous vous dites voilà, je m'appelle, voilà mon nom, je serai là, et on vous confirmera bien sûr la bonne réception de l'email, donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, il reste de la place, public@rmc.fr. Julien, alors, par quoi est-ce que tu veux démarrer? Parce qu'il y a 1000 dossiers là. Hein. Il faut qu'on parle d'Arsenal évidemment, qui a soulevé le trophée. Il faut qu'on parle des passes D de Bruno Fernandes. Il faut qu'on parle des nombreux adieux à droite à gauche.
Il y en a eu des adieux. Hein.
Et il y en a eu. Il faut qu'on parle de Tottenham maintenu, de Sunderland en Coupe d'Europe, du bid Chelsea. Voilà, parce que Chelsea qui finit 10e, c'est quand même incroyable, en Première Ligue. Bon, alors rapido, c'est vaincu Arsenal. Parce qu'on savait qu'ils étaient champions. Et là, il y a eu célébration. Bon, normal, quoi.
Normal, effectivement, mais c'était le jour du trophée. Donc, c'est vrai que c'est toujours particulier. Ian Wright était là. Beaucoup de supporters d'Arsenal, célébrités, entre guillemets, aussi. Beaucoup de supporters d'Arsenal qui étaient dans la tribune, pas pour les supporters visiteurs. Vous savez qu'en Angleterre, c'est très strict. Vous n'avez pas le droit d'aller dans la tribune, d'acheter des billets pour la tribune normale si vous êtes... fan de l'équipe visiteur, mais là on avait fait des exceptions quand même et les supporters de Crystal Palace ont gentiment accueilli un peu partout des supporters d'Arsenal pour être là le jour où enfin après 22 ans d'attente.
C'est pas un club ennemi d'Arsenal.
Crystal Palace. Non, en plus, mais même enfin en temps normal ce serait pas autorisé, t'aurais pas vraiment le droit de le faire, mais là vu que c'était la remise du trophée et vu que du côté de Crystal Palace c'était aussi un petit peu la fête, même s'ils ont perdu au final de 2-1, mais ils se préparent pour la grande finale de mercredi bien sûr, donc c'était très bon enfant et donc ça a été accepté assez logiquement et naturellement on va dire. Et pour Arsenal c'est vrai que quand Martin Odegaard est allé chercher ce trophée de la Première Ligue, on l'a dit hein, pour la première fois depuis 22 ans, alors un trophée légèrement différent de celui d'il y a 22 ans, puisque celui d'il y a 22 ans, la version que le club a, elle est toute dorée, puisque c'était les Invincibles, et qu'ils avaient terminé la saison invaincus, alors que là, vous avez le trophée en argent, et juste la couronne en haut, en or, celle des Invincibles, elle est toute en or, elle est toute en doré. Donc celui-là est un petit peu différent, forcément, mais l'émotion restait la même, très très belle, pour cette équipe qui, donc, on l'avait dit déjà mardi soir, Gilbert était championne depuis mardi, mais qui a pu célébrer ça avec les 3000 supporters, donc, et un peu plus, qui était à Selhurst Park cet après-midi.
Voilà, et bien évidemment, on va beaucoup parler d'Arsenal cette semaine avec la finale de la Ligue des Champions qui arrive.
À noter qu'Arteta a fait pas mal tourner quand même. C'est dans son 11 de départ.
Oui, on s'y attendait aussi, Max. Ouais, bien sûr.
Pour préparer la finale de la Champions.
Il est blessé.
Visiblement, s'est tenu un peu la cuisse au moment de sortir. Il n'aurait pas été titulaire de toute façon samedi prochain, le week-end prochain, mais il aurait pu jouer un rôle en sortie de banc. Donc c'est à suivre, mais c'est vraiment le seul petit bémol, on va dire, de l'après-midi, parce qu'effectivement tout le monde a un peu joué. Même Christian Norgaard, qui avait jamais été titulaire en championnat, il aura sa médaille. Il a eu sa médaille parce qu'il était là aussi aujourd'hui, par exemple.
Bon, voilà pour Arsenal. Tottenham maintenant, parce que ça, c'était évidemment le feuilleton de ces dernières semaines, le maintien. Et finalement, maintien, oui. Donc, De Zerbi aura réussi un truc cette saison, quand même.
C'est vrai, tu as raison, Gilbert, il a réussi à les maintenir. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que, au coup sifflet final, alors qu'ils étaient, même si Everton attaquait, il aurait fallu qu'Everton marque deux buts, puisque un match nul, ça leur suffisait aussi, et ils menaient 1-0 Tottenham. Il est rentré sur le terrain en courant, et j'ai eu l'impression que très vite, il s'est dit, mais faut pas que je célèbre comme si on était champion, ou comme si on avait accroché avec des champions. Donc il s'est vite, il a un peu ralenti, il s'est calmé en disant, c'est bien sûr, mais il fallait se maintenir, c'est sûr, mais c'est pas non plus la célébration du siècle, vu comment t'as galéré, c'est simplement leur troisième victoire à domicile de toute la saison en championnat. Ils n'avaient plus gagné en championnat depuis le mois de décembre à domicile. Donc il y avait pas de quoi être fier. Après oui, t'es content bien sûr parce que ça aurait été un tremblement de terre s'ils avaient été relégués aujourd'hui. Mais donc t'es content, tu célèbres un tout petit peu le fait que tu t'es maintenu, mais que Tottenham avec son budget, avec son stade, avec son centre d'entraînement, avec ses joueurs et son entraîneur à 15 millions d'euros l'année de se maintenir, tu peux pas non plus célébrer vraiment. C'est pas possible.
Après moi j'ai suivi la fin du match. Il y avait quand même une atmosphère très particulière. Hein. Je crois qu'il y a eu 10 minutes d'arrêt de jeu. C'est vrai que il y avait pas d'ambiance. Il n'y avait pas de chant. Tu sentais que même si Tottenham avait deux buts d'avance par rapport au maintien, ils étaient quand même vraiment pas fiers. Il y a un arrêt du gardien extraordinaire à 3-4 minutes de la fin du temps additionnel. Il fait une parade exceptionnelle. Et là, tu sens que s'ils prennent un but là, ils sont pas bien. Même s'il y a deux ballons qui arrivent dans la surface, ils sont capables de prendre un but. Donc, c'est vrai quand même que bon, il y avait une atmosphère vraiment particulière. Mais quel stade. Et moi, je suis content pour Roberto De Zerbi parce qu'il a connu une saison quand même ultra difficile. Et d'arriver à maintenir ce club. Moi, je me disais, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Julien, mais moi, je pense que l'année prochaine, ils peuvent faire une belle saison. Tu vois, quand ça fait deux ans là qu'ils passent vraiment à côté et avec leur budget, avec ce stade,
tous en Coupe d'Europe,
avec cette énergie de revenir d'entre les morts, ça peut faire quelque chose avec un De Zerbi qui sera revanchard.
Ouais, peut-être. Alors De Zerbi, oui, je pense. On l'avait dit quand il était arrivé aussi. Hein. C'est un entraîneur qui forcément allait les rendre meilleurs. C'était obligé.
On est sûr qu'il va rester.
Ouais. Ouais, on est sûr qu'il va rester. Oui, bah déjà.
Bon, c'est peut-être lui. Il va pas vouloir partir, mais bon.
Bah après, les cinq derniers matchs, son bilan, il est quand même honorable. Hein. Il me semble qu'ils font 10 points sur 5 matchs.
C'est ça, ouais, tout à fait.
Donc bon, c'est aussi grâce à ça qu'ils se sauvent.
Finalement, qui est un petit peu. Mais après, je suis d'accord avec toi, Kevin, dans un sens. Mais c'est un été très très important. Tu peux pas continuer à faire les erreurs qu'ils ont faites ces derniers étés aussi. Le directeur sportif Johan Lange, qui est très discuté en interne et en externe, ne pourra pas.
C'est celui qui était à l'Ajax.
C'est celui qui était à l'Ajax.
Mais ils en cherchent un deuxième parce qu'ils ont une direction sportive bicéphale. Il y avait la rumeur Sébastien Kehl qui arriverait de Dortmund parce qu'ils avaient Paratici et Johan Lange, on est d'accord. Donc en fait ils ont.
Ouais, mais ça n'avait pas marché non plus.
Bah, pas du tout.
Mais comment tu peux avoir deux directeurs sportifs?
C'est comme ça que ça a été.
Je crois que Julien disait qu'il y en a trois à Chelsea.
Ouais, Chelsea, il y en a plus aussi.
Cinq.
Il y en a 5 à Chelsea, ouais.
5 Kevin Diaz, tu te rends compte? Alors, un, nous, ça nous va, mais 5 Kevin Diaz.
Déjà, un, on s'en mêle les pinceaux, 5.
Non, mais je pense qu'on a énormément critiqué Daniel Levy. Daniel Levy qui, à son arrivée, Tottenham était tout de même un club de milieu de tableau. Il les a laissés en tant que club moderne, participant à la Ligue des Champions. Mais c'est vrai qu'il manquait aussi, en fait, cette autorité, tout au long de cette saison. Vitek Hesham, qui était, l'ancien CEO d'Arsenal, je pense qu'il a pas forcément ni les compétences, en fait, ni le charisme, ni, pour gérer une situation de crise aussi importante. Après, l'effectif est bon. Il y a des trous dans cet effectif, mais l'effectif est bon. L'effectif avec Kudus, avec Kulusevski, avec Madison, avec Solanke, si tous ces joueurs reviennent de blessure, il y a une bonne base de jeunes. Archie Gray, Pape Matar Sarr, Lucas Bergvall, Poporo n'est pas encore jeune. Distini
Udogi. Revient dans le top 5 avec ces joueurs.
Top 5 peut-être. Ouais, qualification Coupe d'Europe, bien évidemment, à mon avis. Bah, attends, si tu vois que Sunderland fait 7e cette saison, l'effectif renforcé de manière correcte, il n'a rien à envier en fait à des équipes qui sont qualifiées en Coupe d'Europe cette saison. Bah, rien. Rien du tout.
Oui, on verra.
Bon, on verra effectivement.
Enfin, je suis convaincu par contre.
Pour Tottenham. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu de Sunderland, parce que ça c'est quand même la sensation finalement de la fin de saison. Ils avaient bien démarré, après on avait un peu oublié Sunderland parce qu'ils étaient dans le ventre mou. Bon, il y a même eu un moment où le Brice semblait un peu en danger, tout ça. Et puis finalement, ils reviennent de loin pour finir en Coupe d'Europe, ce qui est historique pour Sunderland.
Ouais, 7e, c'est une saison incroyable. Sincèrement, bravo à Régis et à Florent Gisolfi aussi, le directeur sportif qui était arrivé de la Roma l'été dernier, et à ce groupe de joueurs-là. Parce que c'est vrai qu'à un moment, ça a été plus compliqué pour eux. Mais rappelez-vous, c'est quand même la Coupe d'Afrique des Nations, ça, qui correspond avec la mauvaise période, surtout, où ils avaient perdu 6 joueurs, dont des joueurs très importants comme Diarra et comme Sadiki et Reynildo, par exemple. Et donc, forcément, je pense que si t'enlèves à n'importe quelle équipe de première ligue de ce niveau-là, je te parle pas des gros, mais 3 ou 4 titulaires indiscutables et parmi tes meilleurs joueurs et parmi tes leaders, ce serait compliqué pour n'importe qui. Et sincèrement, je pense que même s'il n'y a pas la CAN, ils sont pas loin, ils auraient facilement, on en avait parlé avec Enzo Lefay qu'on a fait dans l'After Angleterre, d'ailleurs vous pouvez toujours le retrouver à écouter parce que c'était fantastique, vraiment Enzo il était incroyable, il fait une saison encore, le match qu'il fait aujourd'hui il est en patron, sincèrement il est en patron, je sais pas combien de temps il restera, mais alors je sais qu'à la Roma ça s'était pas bien passé, mais c'est un joueur, sans faire offense à Sunderland, qui est bien trop fort pour Sunderland et qui va viser plus haut et qui un jour ira
enfin tu dis
haut,
ça maintenant mais Enzo Lefay à l'époque on se demandait s'il était assez fort pour Lorient.
Et non, mais surtout que c'est un émotif. Il a surtout besoin d'être vraiment bien encadré, intégré. Et la relation avec le Brice, elle est hyper importante aussi pour son épanouissement. Même si t'as raison.
Ouais, c'est sûr. Mais donc voilà, donc sans la CAN, je pense que même ça aurait été encore un peu mieux en termes de quelques points et tout ça. Mais 7e, c'est incroyable. Granit Xhaka, pour moi, est pas loin d'être la recrue de la saison l'été dernier, vu l'impact qu'il a eu sur cette équipe. Et l'autre période un peu plus compliquée d'ailleurs pour Sunderland, c'est aussi quand Granit Xhaka s'est blessé. Il y a pas de secret. Un petit peu comme le disait Gisolfi dans l'interview, si vous l'avez vu dans l'équipe d'aujourd'hui, ouais. Où il disait je croyais que le joueur parfait n'existait pas. Et puis après j'ai rencontré Granit Xhaka. C'est un petit peu ça. Sincèrement, l'impact qu'il a eu sur cette équipe et sur ce club était juste phénoménal. Donc voilà, bravo à eux vraiment. Hein. Alors l'année prochaine, le problème, même si je pense qu'ils vont continuer à investir et de façon intelligente, c'est que ça va être très compliqué à gérer le jeudi, le dimanche, le dimanche avec la Coupe d'Europe. Voilà, avec la Coupe d'Europe va pomper beaucoup d'énergie aussi et tout ça. Mais bravo à eux. La dernière fois que c'était en Coupe d'Europe, c'était en 1973. Donc ils ont. Quand tu penses qu'il y a 18 mois, ils étaient encore en Championship, c'est magnifique.
Exactement.
Ils étaient en Ligue 1 il y a 3 ans, donc c'est ça, c'est impressionnant. Ouais.
Et Kevin, d'ailleurs, on en parle souvent quand on parle ensemble de Sunderland, mais le fameux documentaire, bien sûr.
Il commence à dater celui-là maintenant.
Mais encore plus, Gilbert. Ouais. Encore plus, quand tu vois où ils sont aujourd'hui, c'est bien de se replonger dans la galère dans laquelle ils étaient à ce moment-là, avec des gens complètement incompétents dans des rôles clés. Et sincèrement, pour les auditeurs qui ne l'ont pas vu, allez le voir et vous comprendrez encore mieux l'incroyable miracle qui est en train de se passer à Sunderland, vu d'où ils sont partis il y a 4 ans.
Mais comme quoi, tu vois, tu parles.
Moi, je regrette que Granit Xhaka ne pourra jamais jouer avec Alain Roche.
Granit Roche, pas mal.
Pascal Pierre,
ouais.
Mais tu vois, tu parlais du club, que ce soit pour le documentaire de Sunderland qui est extraordinaire, mais également pour celui de Wrexham que moi je découvre depuis quelques semaines, qui est aussi fabuleux. C'est qu'en fait un club, c'est d'abord sa communauté et son histoire avant d'être les gens qui sont à l'intérieur, et c'est-à-dire les dirigeants, qu'ils soient compétents ou pas. Mais à partir du moment où t'as une base de supporters ou t'as une base de fan aussi large que Sunderland, qui est un énorme club, notamment avec sa rivalité avec Newcastle notamment, mais aujourd'hui on parle souvent du football anglais, il y a de l'argent, il y a pas mal de choses, tu vois, on a reçu nous dans Génération After Amine Mathieu qui a fait son match ce soir au Parc des Princes, qui est quand même une sacrée réussite pour tout ce qui est entertainment, hein, c'est pas du sport exactement, mais lui il disait que les suiveurs de sport ou les youtubeurs ou les gars de Twitch, les influenceurs anglais avait, Julien, des millions de followers. Mais genre 5, 10, 50 fois plus qu'en France. Et moi, je lui expliquais, je lui dis, mais tu te rends pas compte, l'Angleterre, en fait, ils ont une fanbase de foot, mais c'est même pas des fanbase, c'est vraiment des ils ont quasi, alors ils ont pas les ultras comme nous, mais c'est comme si, eux, ils avaient que des ultras dans leur stade.
C'est pas l'ultra,
je parle de la culture.
La notion de communauté.
Mais je parle de la notion de supporter, mais vraiment, jusqu'au bout des ondes. Moi, de leur marqué, club, et que ce soit une mamie, une famille ou un mec de 25 ans qui met une cagoule, un bonnet, une casquette et une écharpe. Non, là c'est tout le monde qui suit ce club. Et dans le documentaire de Sunderland ou dans celui de Wrexham, qui est en 5e division au départ, mais tu sens que le club c'est la famille.
J'avais dit, ça m'avait marqué, moi, quand je suis arrivé à Sheffield United, j'avais 17 ans, j'arrivais du stade de Reims, et tu l'as très, très justement dit, Kevin. Alors, j'étais mineur, donc je pouvais pas avoir mon propre appartement, donc on était logé dans des familles d'accueil. Et alors, les week-ends de match, ça partait de la grand-mère au grand-père, à l'oncle, à la tante, ils se retrouvaient tous et ils partaient tous au stade. C'est vraiment ça fait vraiment partie de la famille, je pense que tu vas le confirmer, David, toi qui connais très bien, bien le championnat anglais. Et en règle générale, c'est vrai que les gens vivent, en fait, pour ce club, et dans le documentaire de Sunderland, en effet, sur Netflix, on le voit très bien. Et c'est vrai que forcément, voilà, ça crée aussi une culture, ça crée une identité. Et ce qui est très beau aussi, c'est que même quand les clubs vont mal, les supporters continuent à les suivre.
Après, le problème de l'Angleterre, c'est qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à foutre quand même.
Il n'y a pas grand-chose.
Il y a pas mal de clubs aussi qui sont partiellement, mais qui sont aussi détenus par leurs supporters. En fait, le système de sociaux, c'est un peu différent, mais il n'existe pas uniquement en Espagne. Il y a à l'époque Wimbledon, quand ils sont descendus, quand il y a eu la scission avec le MK Dons, ils ont été détenus par leurs supporters. Portsmouth, avant d'être racheté par le PDG de Disney, a été détenu par les supporters.
Wrexham a été détenu par leurs supporters avant d'être racheté.
Allez, on continue la discussion avec Julien dans quelques instants, mais d'abord un point F1. Jean-Luc, où en est-on du Grand Prix du Canada ?
Nous sommes au 52e des 68 tours, finalement, parce qu'avec les tours de formation, on a déduit deux tours, ce qui est normal. Et on a toujours Antonelli qui bat et rebat le record du tour. Là, il vient de signer un chrono d'une 14-604 et il compte 7 secondes d'avance sur Verstappen. Verstappen, lui, qui est sous la menace et à l'instant un virtuel safety car. Décidément, ça n'arrête pas. Ça a été une course à rebondissement. Tout à l'heure, on a eu également un virtuel safety car pour à peine un tour. Donc, on a Antonelli leader, je répète. Verstappen, deuxième, à 10 secondes maintenant. Hamilton est tout proche. Il est à 2 secondes de Verstappen. Et puis, Charles Leclerc est quatrième, mais assez loin, à une quinzaine de secondes d'Hamilton. Ensuite, on a Hadjar qui s'arrête au stand. Hadjar, attention, qui est sous investigation. Il a bien pris les 10 secondes de pénalité tout à l'heure pour la manœuvre dont je parlais au détriment de Charles Leclerc. Et là, il n'aurait pas respecté les drapeaux jaunes. Donc, il peut avoir une pénalité supplémentaire. Il s'arrête au stand. Colapinto est 6e, Lawson 7e, Gasly 8e, Sainz 9e et Berman 10e. Je répète, on est sous régime de virtuel safety car.
Le tennis, Eric, qu'est-ce que ça donne pour Djoko ?
Novak Djokovic qui va servir pour le gain du match, Gilbert, après 2h47 de combat. Il mène deux manches à une, 5-4 donc pour le Serbe. Il est au service, donc c'est dans 2-3 minutes, ça peut s'achever donc pour Giovanni Pichi-Péricard, mais le spectacle aurait été de qualité pour cette night session.